Science en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Science en liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Quand un pinson fait son nid, il ne lui suffit pas d'avoir de bons gènes pour se reproduire. La femelle a aussi son mot à dire. Car c'est bien leur collaboration qui assurera le succès de la progéniture. Loin de la théorie d'Hawkins et de ses gènes égoïstes, on s'aperçoit que l'entraide fournit les bases de la reproduction. Plus même, car c'est dans la complémentarité des sexes que va se construire cette collaboration bénéfique. Autant dire que c'est l'entraide qui élabore la spécialisation de chaque être vivant. Souvent, cette collaboration est indirecte et ce sont des milliers d'interactions écologiques qui organisent les structures et l'évolution des organismes. Mais parfois, comme chez les chauves-souris, la réunion de tous profite à chacun. Chez les chauves-souris, la première spécialisation avant le sexe, c'est d'abord de voler. La conquête du milieu aérien a entraîné la formation d'ailes particulières, car les chauves-souris volent avec leurs mains. D'un coup de poignet, elles peuvent alors capturer des insectes ou voltiger d'arbre en arbre. L'incroyable diversité de ces animaux est liée à leur aptitude à exploiter des niches aussi différentes que pêcher du poisson, manger du fruit, boire du sang et même polliniser des fleurs sauvages. Car les chauves-souris construisent aussi l'avenir du monde en dispersant les graines de la forêt. Certaines espèces nocturnes ont su développer l'art de s'orienter dans le noir et le cri répété des chauves-souris est devenu capable de dessiner la carte de leur environnement. En utilisant l'écholocation, ces animaux trouvent leur gîte, leur proie, leur congénère. Sexuellement, elles sont assez dégourdies, pratiquant volontiers un libertinage osé pour de si petits mammifères. Mais ce qui fait la particularité des chauves-souris, c'est aussi de s'être associées pour se rassembler en colonies. Dans cette organisation sociale, aucun petit chef, aucun dominant ne vient s'emparer des ressources. Au contraire, les chauves-souris ont même appris à partager leur butin. Mais la structure égalitaire des colonies va encore plus loin. Car les chauves-souris s'organisent en véritable communauté libertaire. Ces anarchistes de la nuit n'ont bien sûr pas rédigé de contrat de leur association. Elles se contentent de vivre ensemble. Et c'est depuis des temps immémoriaux qui remontent au Crétacé que les chauves-souris ont développé leur mode de vie aérien. Oui, les chauves-souris ont connu le tyrannosaure, le glyptodon et ont même survécu à la grande crise d'extermination de la fin du Crétacé. C'est dire que leur organisation sociale millénaire peut nous apprendre bien des choses. Nous allons voir que cela peut modifier notre vision biologiste de l'écologie dominante inscrite dans des rapports de territoire ou de hiérarchie. C'est donc aussi qu'il peut y avoir une autre écologie et qu'en s'intéressant à la vie féerique de ces petites sorcières volantes, nous pouvons appréhender leur vie communautaire si singulière. Alors allons-y, Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Explorons les mœurs étonnantes des chauves-souris nocturnes et de leurs sœurs tropicales, et nous allons voir comment ces animaux peuvent s'amuser d'une vie aussi libertaire que fascinante.
C'était The Creepy Horror Song par Adrian Croater. Nous voilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, science en liberté. Aujourd'hui Thierry, nous allons nous intéresser à un groupe d'espèces tout à fait étonnant. Et nous allons essayer de découvrir ce qui fait de ces animaux un groupe à part. Non seulement dans l'histoire des mammifères, mais aussi un groupe à part dans leur organisation sociale, sans chef ni parti. Bien sûr, elles ne sont ni chauves ni souris, mais s'apparentent davantage aux musaraignes. Aucun rapport donc avec les souris, il semble que leur nom leur ait été attribué à tort. Bonjour Thierry, c'est avec toi que nous allons essayer de démêler tout cela.
Bonjour Siona, oui, c'est une histoire de moines copistes au Moyen-Âge. Alors, cet abélion recopiait les textes à la main. Or, les chauves-souris étaient nommées par les Romains Cava Sorix, ce qui se traduit par souris des grottes ou chouette souris. Mais comme les copistes ont modifié petit à petit l'écriture en Calva Sorix, souris, chauve.
Une seule lettre de décalage qui va transformer ces petits animaux en énigmes littéraires. Mais de plus, elles sont scientifiquement nommées chiroptères.
Tout à fait. En grec, chiros, ça veut dire la main. et ptère, l'aile. On identifie donc le groupe à des animaux qui volent avec leurs mains. Et c'est tout à fait vrai, les chiroptères utilisent leurs mains pour voler. Les os de l'avant-bras se sont allongés, mais ce sont les métacarpiens et les phalanges hypertrophiées de leurs mains qui soutiennent les membranes de leurs ailes. Aussi, les mouvements du poignet vont déterminer l'envol et le vol des chauves-souris. Alors ils ont une peau fine qu'on nomme le patagium, qui est tendue sur les doigts, et c'est une membrane tendue entre des os allongés, un peu à la façon des baleines d'un parapluie. Ce patagium est prolongé par une membrane autour de la queue, une membrane caudale, entre les pattes postérieures, qu'on appelle l'uropatagium. Et il a un rôle très important pour orienter le vol, mais ça sert aussi de filet, par exemple, pour la capture des insectes ou des autres proies. Cet uropatagium est maintenu par un os extraordinaire, l'éperon calcanéen, car cet os est formé spécialement par des os du cartilage du talon de la chauve-souris pour soutenir la membrane le permettant de manœuvrer dans les airs. C'est un os inventé par l'évolution chez les chauves-souris.
Oui, il y a peu d'animaux capables de voler vraiment.
En effet, s'il y en a, il y a seulement que quelques mammifères comme les dermoptères, certains marsupiaux et les écureuils volants ne sont pas vraiment capables d'un vol battu. Ils se lancent depuis la ramure d'un arbre et effectuent un simple vol plané. C'est déjà pas mal. Mais les chiroptères sont vraiment les seuls mammifères volants.
Et Thierry, des chauves-souris, des chiroptères, pardon, il y en a beaucoup?
Oui, si on a à considérer qu'il y a plus de 1400 espèces dans le monde. Ce qui veut dire qu'un mammifère sauvage sur 5 est un chiroptère. On en découvre de nouvelles espèces comme par exemple le murin cryptique Myotis crypticus qui a été décrit pour la première fois en 2019 en France. Il a été identifié par des équipes françaises, espagnoles et suisses car il avait été confondu pendant longtemps avec le murin de Natterer qui est beaucoup plus commun. Et donc on l'a découvert en février 2019, c'est vous dire qu'on trouve des nouveaux mammifères tout à fait récemment. La plupart des populations de ce murin cryptique vivent entre l'Espagne du Nord, le sud de la France et l'Italie.
C'est incroyable de découvrir encore en France de nouvelles espèces. Alors, il existe beaucoup de reportages sur l'origine des oiseaux, mais les informations sont beaucoup plus rares pour les chiroptères. Est-ce qu'on sait vraiment comment les chauves-souris sont apparues?
On en sait assez peu. Toutefois, le vol battu des chiroptères s'est développé à partir de battements d'ailes, et il n'y a eu que trois groupes qui ont su se produire cela au cours de l'évolution. Alors tout d'abord, au Jurassique, on se rappelle, il y a les immenses ptérosaures, des grands reptiles proches des dinosaures, dont l'aile est tendue sur le petit doigt hypertrophié de la main.
Eh bien, ceux-là volent avec leurs petits doigts, mais on les connaît un peu grâce aux films de science-fiction aussi.
Oui, il est possible d'ailleurs que ce soit l'apparition des oiseaux à la fin du Jurassique qui ait participé de leur extinction, puisqu'ils sont complètement disparus entre le Jurassique et le Crétacé. La plupart des ptérosaures paraissaient décliner tout au long du Crétacé, c'est au Crétacé, l'époque suivante, que les premiers oiseaux vont apparaître. Alors ces oiseaux possèdent au contraire des métacarpiens et des phalanges des trois doigts qui sont complètement réduites. Ils ont comme des sortes de moignons de bras et de mains. Donc c'est une solution totalement différente au même problème. Comment voler? Les oiseaux s'appuient sur une superposition de plumes. Hein, ce sont des plumes posées quasiment comme étude d'un toit. Ce sont des fanères très spécialisés qui sont attachés le long du membre supérieur. Donc les oiseaux agitent leurs ailes pour effectuer un vol battu extraordinaire. Mais même des oiseaux non volants, comme par exemple les manchots de l'Antarctique, possèdent un membre supérieur qui n'a plus que trois doigts très réduits.
En revanche, avec les chauves-souris, on revient à la solution des os allongés.
Tout à fait. Alors les scientifiques pensent qu'elles sont apparues à la fin du Crétacé, mais parmi tous les mammifères, seuls les chiroptères montrent un vol battu. C'est propulsé par des battements d'ailes, ça veut dire, un vol battu. Aucun autre mammifère n'a pu vraiment être aérien. Alors on a des fossiles au début du tertiaire qui datent donc de 52 millions d'années. C'est notamment Oniconicteris qui a été découvert en 2008 et Icaronicteris qui sont déjà des chauves-souris primitives mais assez parfaites. Hein. Elles possèdent déjà des ailes, le vol battu. Leur grand patagium leur permettait de manœuvrer en vol. Donc l'apparition du vol date probablement de la fin du Crétacé, probablement en même temps ou juste après les oiseaux. Alors bien sûr, ce n'est pas en planant d'arbre en arbre qu'elles ont conquis le milieu aérien. Mais c'est plutôt en sautant.
En sautant depuis le sol, hein.
Oui, on suppose que c'est d'abord des animaux arboricoles qui, en sautant, ont abandonné les mains préhensiles pour développer une membrane à l'air, le patagium. Alors ça se serait passé il y a environ 64 millions d'années, à la fin du Crétacé, d'après une étude de Tilling en 2005. Alors le registre fossile reste très inconnu. La transformation du nombre antérieur des petits mammifères arboricoles se serait déroulé à partir d'animaux qui sautaient depuis le sol pour atteindre les branches basses des arbres et s'y accrocher. Il y a une étude de 2018 qui montre que la modification du membre antérieur des chiroptères, ce qu'on appelle nos bras, en quelque sorte, aurait pu s'accomplir très rapidement par un simple changement d'expression de quelques séquences génétiques seulement. En tout cas, les spécificités du groupe, les apomorphies développées comme l'hypertrophie des phalanges, le développement du patagium, la modification du sternum, parce qu'il faut aussi modifier le sternum pour accrocher les muscles du vol, les colocations, tout étaye que l'ensemble du groupe est monophylétique, c'est-à-dire qu'il ne proviendrait que d'un seul groupe d'ancêtres apparu une seule fois dans l'évolution.
Et toutes les chauves-souris dorment la tête en bas.
Alors certaines non, préfèrent se glisser dans des fissures de rochers ou dans des cavités d'arbres. Mais beaucoup de chiroptères ont adopté cette technique de s'accrocher la tête en bas, sur les branches ou dans les grottes, afin d'échapper aux prédateurs. En fait, leurs pieds sont tournés vers l'arrière, orientés de façon à pouvoir se suspendre à la voûte. Alors c'est une posture qui favorise l'envol immédiat, il suffit de se laisser tomber, même sans prendre d'élan. La physiologie des chiroptères s'est adaptée à cette position particulière pour éviter que le sang ne stagne dans la tête. Alors nous, de notre côté, on a le sang qui stagne dans nos pieds, c'est pas toujours mieux. Donc ces petits animaux vont aussi posséder des tendons qui bloquent les griffes sous l'effet de leur propre poids, ce qui fait que la chauve-souris n'a aucun effort à faire pour se maintenir ainsi pendue aux branches ou au plafond d'une grotte.
Et oui, elles sont nocturnes en plus, et la nuit est propice à bien des mythes.
Et oui, et dès le début du Jurassique, les mammifères primitifs ont adopté un mode de vie nocturne. Sans doute pour esquiver la présence des grands dinosaures, mais enfin on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, grâce à cette discrétion, ces mammifères ont pu se partager des ressources. Et quand les insectes pollinisateurs vont se développer, les mammifères seront prêts. Les chauves-souris ont suivi ce mouvement évolutif. Elles ont donc d'abord colonisé la nuit, et c'est cette écologie de la nuit, laissée libre par les reptiles et les oiseaux, qui va faire leur vie.
Elles volent très vite, souvent en papillonnant.
Alors ça dépend des espèces. Certaines volent en effet en papillonnant, d'autres sont plutôt comme des hirondelles, d'autres plutôt comme des moineaux. Ça dépend de leur niche écologique. Hein. Les petites pipistrelles, par exemple, font des vols acrobatiques autour des lampadaires. On les voit très bien les soirs d'été. Au contraire, d'autres vont voler en ligne droite et peuvent atteindre jusqu'à 50 km/h.
Et elles utilisent les ultrasons pour se diriger.
Tout à fait. L'émission de signaux sonores à haute fréquence leur permet de se localiser dans la nuit. On appelle cela l'écholocation. En quelque sorte, elles crient pour voir leur environnement. Justement, l'écholocation consiste dans l'utilisation d'émissions sonores dont l'écho va permettre de dessiner une carte mentale de son environnement. Par exemple, ici, on entend les cris d'une pipistrelle en vol de chasse.
Les chauves-souris sont des espèces très étranges. Elles sont issues de quels groupes zoologiques ?
Alors, les études anciennes les plaçaient à côté des musaraignes. Mais des recherches récentes en phylogénie moléculaire les situent plutôt autour d'un groupe ancien, plutôt proche des chevaux et des carnivores. Ah, il faut donc en conclure que les chevaux, les dauphins et les chiroptères restent des groupes cousins phylogénétiquement. Ensuite, on a longtemps séparé les chiroptères en méga-chiroptères frugivores, c'était les roussettes par exemple, et micro-chiroptères, plutôt les petits insectivores de nos régions comme la pipistrelle. On considérait ainsi que les grandes espèces de méga-chiroptères n'émettaient pas d'ultrasons et étaient plus primitives que les micro-chiroptères de nos campagnes, dont la plupart pratiquaient aussi l'hibernation. Alors c'est une définition très pratique, mais malheureusement elle n'est apparemment plus retenue depuis quelques nouvelles études de phylogénie moléculaire. On considère aujourd'hui qu'il faut les placer dans deux groupes différents. Les hyènes pterochiroptera, qui ressemblent à des renards volants ou les roussettes tropicales, mais qui rassemblent aussi des espèces toutes petites, et auparavant placées parmi les microchiroptères, comme par exemple les mégadermes et les rhinolophes de nos contrées. C'est ceux-là qui ont le nez en trompette et capables d'émettre des ultrasons. Et puis le second groupe est les yangochiroptera. Eux, ils comportent tous les petits myotis, les murins, mais aussi les pteronotus.
En fait, cette ancienne distinction entre les petites espèces de microchiroptères et les grandes espèces de mégachiroptères était liée à leur capacité à émettre des ultrasons, ce qui montrait que les petites chauves-souris avaient développé cette capacité et pas les grandes chauves-souris tropicales, non ?
Ben justement, c'est ça la bonne question. Avant, c'était assez clair, on pouvait effectivement les séparer en deux groupes. L'écholocation constituait le fondement de la classification ancienne. Les petits microchiroptères comme les rhinolophes communs, par exemple, ou les pipistrelles, sont des chauves-souris nocturnes qui utilisent l'écholocation pour se diriger dans le noir. Donc on les mettait ensemble. Au contraire, les grandes roussettes de l'ancien groupe des mégachiroptères ne pratiquent pas l'écholocation, se dirigent à la vue. Elles sont d'ailleurs plutôt crépusculaires, même parfois diurnes. Donc avec cette séparation, on pouvait penser que l'écholocation était apparue seulement chez un ancêtre commun à tous les microchiroptères nocturnes. Et ça collait tout à fait avec une idée de monophylie du groupe. Et puis on pouvait placer les autres, les mégachiroptères, dans un groupe à part. Seulement voilà, l'histoire n'est pas aussi simple. Car les études moléculaires ont installé aujourd'hui un autre type de séparation. D'un côté, les grandes espèces qui n'utilisent pas l'écholocation comme les roussettes, mais qui sont rassemblées en plus avec des rhinolophes qui, eux, pratiquent l'écholocation. Et dans le second groupe, toutes les petites espèces qui pratiquent aussi l'écholocation. Du coup, on s'aperçoit que l'écholocation a dû apparaître deux fois au cours de l'évolution de manière indépendante. Ou alors que l'écholocalisation soit apparue chez tous les chiroptères, et puis qu'après les roussettes l'ont perdue. Donc on a maintenant plusieurs scénarios.
À l'origine, on sait quand même si tous les ancêtres des chauves-souris possédaient l'écholocation.
Eh bien non, tout ça, ça reste très très confus. On pense que les formes très anciennes de chiroptères ont utilisé l'écholocation. C'est l'étude de la bulle tympanique. C'est un petit os du cerveau qu'on trouve sur le crâne qui suggère que cette utilisation était présente chez tous les fossiles, mais après 52 millions d'années, c'est-à-dire assez récemment.
Assez récemment.
Beaucoup de traits des chiroptères anciens ressemblent en effet à ceux des microchiroptères actuels. Alors bien sûr, les chiroptères fossiles possèdent certains caractères, la dentition, des os post-crâniens, des griffes, qui sont absents chez beaucoup des chiroptères modernes. Mais en revanche, ces formes anciennes auraient déjà pratiqué l'écholocation quand on analyse les structures de leur bulle auditive.
Donc les chauves-souris avaient acquis l'écholocation, elles pouvaient s'orienter dans l'espace nocturne grâce au son.
Alors c'est plus compliqué que ça, parce qu'on sait aussi qu'il y a un autre fossile qui date également de 52 millions d'années, qui a été découvert en 2008, c'est Ochinonycteris, et lui, on sait qu'il ne savait pas produire de son utilisable pour l'écholocation. En fait, cette chauve-souris était parfaitement capable de voler, elle possédait toutes les caractéristiques des différentes espèces. Il est donc clair que l'absence d'écholocation ne l'a pas empêché de voler. Donc les chauves-souris pourraient voler même sans écholocation. Comme les autres, elles grimpaient aux arbres, elles chassaient des insectes, mais au vu de ses particularités anatomiques, elles ne disposaient d'aucun système d'écholocalisation. C'est un peu comme les roussettes actuelles, elles devaient s'orienter à la vue et à l'odeur.
C'était peut-être une espèce plutôt diurne, comme les roussettes actuelles, mais quand est-ce que les chauves-souris sont devenues nocturnes ?
En fait, il est possible que les chauves-souris primitives de l'époque n'aient pas acquis l'écholocalisation et se soient contentées de rester diurnes ou crépusculaires. Mais je penche plutôt vers la deuxième hypothèse, que certaines espèces du groupe des roussettes aient perdu l'écholocalisation. En effet, l'écholocation pourrait bien être apparue très tôt dans l'évolution des petits mammifères. Par exemple, les musaraignes et les tenrecs, qui sont des animaux qui vivent à Madagascar, possèdent déjà une forme d'écholocation rudimentaire. Et pourtant, ce sont des groupes même de mammifères très très primitifs. Ils sont apparus il y a très très longtemps. Même s'ils disposaient d'un système plus grossier, donc des mammifères beaucoup plus anciens que les chauves-souris avaient donc déjà des rudiments nécessaires pour participer au développement de l'écholocation.
Il est donc tout aussi probable que les premières chauves-souris aient acquis très rapidement un système de location sonore élémentaire dans leur évolution.
Oui, et puis ensuite certaines espèces crépusculaires ou même diurnes qui n'ont pas utilisé dans les forêts tropicales peuvent alors avoir perdu cet équipement d'écholocalisation qui pourrait être énergétiquement trop coûteux par exemple. Tandis que des espèces de petits chiroptères auraient développé leur propre système d'écholocation et progressivement seraient devenues plus sophistiquées. Alors à l'appui de cette thèse, l'écholocation des rhinolophes qui diffère sensiblement du système des autres petites chauves-souris comme par exemple les myotis de l'autre groupe des Yangochiroptera. Tous les rhinolophes émettent des ultrasons par le nez et non pas par la bouche, contrairement à tous les autres microchiroptères.
Mais il y a des travaux scientifiques qui ont étudié cela ?
Oui, par exemple, il y a un papier de Jones et Tilling dans Tree qui évoque ce problème dès 2006. Car la publication des phylogénies moléculaires a changé ce qu'on pensait de l'évolution de l'écholocation chez les chauves-souris. En fait, en considérant que les rhinolophes ont une écholocation sophistiquée, possèdent une ascendance commune avec les chauves-souris qui, elles, ne possèdent pas d'écholocalisation, comme par exemple les chauves-souris frugivores de l'Ancien Monde, on peut supposer que l'écholocation laryngée a probablement évolué chez l'ancêtre de toutes les chauves-souris existantes. L'écholocation pourrait avoir été perdue par la suite chez les chauves-souris frugivores de l'Ancien Monde. Toutes les Yin Pterochiroptera. Mais chez les rhinolophes, qui sont aussi du même groupe, il y aurait eu ensuite une évolution secondaire, notamment à partir du clic de langue dans ce groupe. Mais de nombreuses caractéristiques acoustiques comme la compensation du décalage Doppler, l'écholocalisation par chuchotement et bien sûr l'émission nasale comme chez les rhinolophes suggèrent qu'il y a eu de multiples ou peut-être même deux origines convergentes chez les chauves-souris. D'un côté chez les rhinolophes et de l'autre chez tous les autres anciens microchiroptères. De plus, l'écologie des espèces a eu un rôle important parce que ça a imposé d'autres contraintes sur l'écholocation, comme par exemple le succès de chasse.
L'écologie a aussi eu une influence sur les sons, c'est-à-dire...
Alors, la fréquence des cris des chauves-souris est déterminée génétiquement. Et chez les rhinolophes, l'écholocation des ultrasons est émise dans des fréquences hautes, dans la bande très aiguë des 108 kHz à 114 kHz. Ces fréquences élevées ont une très très faible portée, mais ça permet de localiser des très fines structures avec une très grande précision. Donc le rhinolophe n'utilise pas l'écholocation pour identifier un insecte, mais plutôt pour attraper des proies volantes dans des milieux encombrés de végétaux ou en effectuant des passages en 8, par exemple, il va occuper un espace conséquent. En revanche, il est obligé de chasser dans des milieux qui sont déjà riches, pourvus en insectes, et puis d'éviter les habitats trop ouverts.
Les rhinolophes ont aussi une drôle de bouille, avec des appendices en forme de fer à cheval sur leur nez.
Oui, c'est à cause de ça qu'ils ont ce nom-là, et c'est avec leur nez que les rhinolophes émettent leurs cris. Les rhinolophidés possèdent un nez accompagné de plusieurs feuilles nasales, c'est une forme très particulière avec des cavités qui vont permettre de concentrer les sons. La présence de ces excroissances apporte un soutien précis en permettant l'orientation de l'animal. La localisation des obstacles est moins efficace, mais elle est beaucoup plus ciblée. Les scientifiques rappellent que les cris émis sont beaucoup plus aigus, plus hauts que ceux qu'on rencontre chez les autres familles de chiroptères. En l'occurrence, l'amplitude des hautes fréquences utilisées par les rhinolophes est moins large, ce qui réduit l'efficacité de leur chasse. Le signal sonore des rhinolophes est donc moins favorable à la chasse, car le résultat de l'écholocalisation est réduit.
Mais alors Thierry, s'il y a deux groupes qui sont capables d'écholocation, il reste difficile de savoir à partir de quand et pourquoi les chauves-souris sont devenues capables d'émettre des ultrasons pour trouver leur route dans la nuit.
Eh oui, voilà en effet le problème. Mais peut-être que les oiseaux ne sont pas si indifférents que ça à la solution. Pourquoi les oiseaux? On va voir. L'écholocation est un système qui permet d'envoyer des sons qui vont se répercuter contre les obstacles et revenir aux oreilles de l'émetteur. Du coup, le cerveau va dresser une carte de l'environnement qui permet de se localiser dans l'espace sans rien voir. C'est-à-dire qu'avec l'écholocation, les chauves-souris discernent le monde grâce à leur voix, grâce au son. Après, les ultrasons ne sont pas forcément les plus utiles pour faire un radar. Les principaux groupes de microchiroptères sont tous capables d'écholocalisation et ils seraient apparus il y a 52 millions d'années, c'est au début de l'Éocène. Le climat est chaud et humide et c'est surtout à cette époque que les insectes volants se diversifient en des milliers et des milliers d'espèces. Du coup, la différenciation des chiroptères peut avoir lieu grâce à leur proie, les insectes. Car à l'époque, les oiseaux ne sont pas des gros consommateurs d'insectes, pas comme on les connaît aujourd'hui. Il y a même un affaiblissement des populations d'oiseaux. Et certains d'entre eux vont devenir de gigantesques prédateurs qui vont courir un peu à la manière des autruches. Alors pour se partager les niches écologiques nouvelles de l'Éocène et éviter la concurrence des oiseaux, eh bien les chiroptères ont choisi la nuit.
Et oui, du coup, ils auraient développé l'écholocation pour s'adapter à la vie nocturne.
C'est un peu ça, car dans la nuit, les sons criés reviennent facilement en écho. C'est la répétition des cris contre un arbre, contre un rocher, qui va leur dévoiler les obstacles. L'écholocation, ça consistait à émettre des sons, des cris, puis à recevoir les échos comme le ferait un radar pour détecter des obstacles qui sont présents dans l'environnement. Grâce à l'usage des sons de haute fréquence, l'image sonore permet de caractériser des objets tout petits. Pour détecter un obstacle petit ou identifier un insecte en vol, par exemple, il faut utiliser une fréquence des sons assez haute. Plus le son est haut, plus la chose repérée sera petite, mais moins on reconnaît l'environnement autour. L'oreille humaine perçoit des ondes sonores entre 20 et 20 kHz. C'est-à-dire 20 000 Hz, si vous préférez. Plus le nombre de vibrations par seconde est élevé, plus le son est aigu. Mais au-delà de 18 kHz, les vibrations sont tellement rapides qu'on les entend très mal avec notre oreille, et c'est pourquoi on va les appeler des ultrasons. Ça reste des sons, mais on ne les entend pas. Les chauves-souris émettent des signaux d'écholocation qui sont entre 18 kHz et 115 kHz. C'est 115 000. C'est énorme.
C'est...
Leur cerveau, et notamment le nombre de lobes occipitaux, va jouer un très grand rôle dans l'identification de l'environnement en fabriquant une sorte de carte sonore. En fait, ce sont des lobes visuels et ça donc leur permet de voir les sons. Car pour analyser les échos, il faut disposer de spécialisations anatomiques, neurologiques, mais aussi cognitives.
Oui, parce que d'autres animaux, le chien par exemple, sont capables d'entendre des ultrasons, mais ne pratiquent pas l'écholocation.
Tout à fait, Sionel, il y a beaucoup de mammifères capables d'entendre les ultrasons. Mais pour pouvoir effectivement avoir cette carte du cerveau, il faut disposer d'un cerveau apte à reconnaître le sens de ces échos. Alors il y a une petite protéine de l'oreille interne qu'on appelle la prestine qui a changé au cours de l'évolution. Cette prestine, cette protéine, fait que les chauves-souris et les dauphins peuvent coder en impulsions nerveuses des ultrasons qu'ils reçoivent en écho. Certains insectivores comme les musaraignes sont aussi capables d'écholocation. Mais bon, la détection des obstacles chez elles reste quand même beaucoup plus sommaire. En gros, elles peuvent identifier si elles passent devant un rocher ou devant un mur. Les tanrecs de Madagascar peuvent aussi émettre des sons. Ils sont aussi capables de distinguer certains éléments de leur environnement. Un peu comme les musaraignes. En gros, ils voient des arbres, des gros objets. Mais tout ça, ça reste grossier. Les chiroptères, en utilisant des sons à très haute fréquence de 0 jusqu'à 200 kHz, sont assez habiles pour mesurer un trou dans un mur ou pour identifier un insecte qui vole. Certaines espèces, comme les oreillards par exemple, peuvent reconnaître un insecte qui marche sur une feuille d'arbre. Alors, il faut dire aussi qu'ils sont dotés d'oreilles particulièrement grandes et d'un tragus. Un tragus, c'est une espèce petit organe au milieu de l'oreille qui concentre les sons. Il y a d'autres écholocataires comme les baleines, les dauphins, qui savent aussi voir dans leur environnement avec une très haute résolution, si je puis dire.
C'est en écoutant les signaux sonores des chauves-souris qu'on peut distinguer les différentes espèces avec un détecteur d'ultrasons.
Tout à fait, Siona. Chaque espèce émet sur un ensemble de fréquences plus ou moins particulières. Alors, il y a des cris de déplacement qui participent de l'écholocation. Et ces cris peuvent être captés par des récepteurs sonores qui vont analyser le son et puis vont le repasser dans des fréquences qui sont détectables par l'oreille humaine afin de faciliter l'identification de chaque espèce. Bon, par exemple ici, on va écouter les cris d'un murène d'aubenton, une toute petite chauve-souris qui chasse les insectes volants souvent à la surface des étangs. À l'approche d'une proie, l'écho des signaux d'un chiroptère qui s'approche d'une proie va revenir d'autant plus vite que la distance va diminuer au fur et à mesure qu'il s'approche. Alors, le nombre d'impulsions par seconde va donc augmenter selon la vitesse d'approche et c'est ça qui lui permet d'identifier les mouvements de la proie. Alors, ça peut varier de 13 à 100 cris par exemple par seconde chez le murène d'aubenton.
L'écholocation est apparue surtout chez les autres, les espèces nocturnes, et est donc liée à des gènes héréditaires.
Alors oui, il existe deux gènes principaux qui sont impliqués dans l'écholocation. Le premier, c'est le FOXP2 qui s'est modifié et qui participe des vocalisations chez les chiroptères. Il paraît très ancien, il est apparu chez des ancêtres arboricoles, nocturnes, de beaucoup de petits mammifères. Mais certains l'imaginent aussi chez des espèces diurnes. Le second gène est donc celui de la prestine, cette protéine, qui va favoriser l'interprétation des signaux sonores. Les scientifiques pensent que la présence de la prestine résulte d'une convergence évolutive entre les rhinolophes et les autres chiroptères durant l'Éocène. On ne sait pas trop en fait. C'est au moment de la grande diversification des insectes en tout cas. La conquête du milieu aérien par les chauves-souris aurait aussi fait coévoluer les gènes impliqués dans l'écholocation. Mais tout ça, ça reste des hypothèses.
Mais alors Thierry, comment font-elles pour dissocier leurs cris et les autres bruits, ou même les autres cris de chauves-souris ?
Alors, ces ultrasons peuvent être émis dans une rafale sonore qui va jusqu'à 190 cris par seconde.
Eh bien.
Et si on ne sait pas comment elles s'y retrouvent dans cet effet cocktail au milieu de plein de sons différents. Mais chaque espèce émet des sons sur une fréquence qui lui est plus ou moins propre. Les chiroptères émettent au moins deux genres d'émissions sonores. Des signaux acoustiques qui sont destinés à sonder leur environnement, c'est ce qu'on appelle l'écholocation, et des signaux de communication spécifiques qui leur permettent de se parler entre eux. D'une façon générale, c'est cette deuxième forme de cri qui est considérée qu'un peu comme le cri des oiseaux. Ils sont émis sur des fréquences beaucoup plus basses, enfin ça reste quand même de 14 à 25 000 Hz, et ils sont très différents des cris d'écholocation. Il y a des travaux modernes qui suggèrent que ce nombre de ces cris sociaux pourrait coder des informations sur le sexe, sur l'âge de l'animal, et sûrement qu'ils sont impliqués dans des relations sociales dans la colonie. Et puis, ils interviennent probablement aussi dans la recherche des partenaires sexuels.
Day by day, I look into your eyes and I see that we live like the shadows without any dreams. The world behind me is like a fantasy. It has a face of mirror. It looks like memory. I'll fight for you. Tears, no more pain. Just one illusion in my veins. Since you've gone away, since I've lost you, I know that love is like blinded.
C'était des ailes de métal, For All Beyond de Metal Wings. Nous voilà revenus dans cette émission où nous écoutons vivre les chauves-souris, mais pour aussi apprendre leur écologie et leur organisation sociale libertaire. Alors Thierry, dans cette émission qui traque les chauves-souris, nous avons laissé ces petites bêtes se crier dessus.
Eh oui, Siona, les chauves-souris sont des animaux très sociaux. Et leurs sons vont changer donc quand ils sont en société. Voilà par exemple ici les cris sociaux des pipistrelles.
Ce sont des animaux très civilisés et très sociables, mais il semble bien que les chauves-souris soient aussi très liées à l'histoire des fleurs.
Et oui, s'il y en a. En fait, les plantes à fleurs se sont diversifiées à la fin du Crétacé, en même temps que les chauves-souris et l'Éocène, jusqu'après la crise de la fin du Crétacé. Et c'est là que les chauves-souris ont appris à s'offrir des fleurs.
Charmant. Alors, les naturalistes ont recensé plus de 1200 espèces de chauves-souris différentes dans le monde. Ça représente près d'un quart de toutes les espèces de mammifères recensées. Les services écologiques que ces animaux produisent sont essentiels à la fois pour l'équilibre des écosystèmes, mais aussi pour l'économie agricole de tous les pays dans le monde.
En effet, les chauves-souris sont des prédateurs d'insectes. Donc ils vont manger beaucoup de parasites et ces parasites peuvent détruire des cultures. Et donc les chauves-souris participent à la régulation de ces parasites. Elles peuvent consommer des kilogrammes d'insectes tous les jours et leur prédation favorise donc au minimum une charge parasitaire ou une charge plus faible de ces insectes. Et puis il faut considérer aussi que l'activité des chauves-souris dure très longtemps. Le rhinolophe par exemple est une espèce dont la longévité dépasse les 30 ans, ce qui est quand même remarquable. Le murin de Brandt, il pèse moins de 7 grammes, mais on sait que sa longévité peut atteindre les 40 ans. En outre, sans les chauves-souris, une grande partie de nos aliments disparaîtrait, outre évidemment tous les déséquilibres des écosystèmes qui compliqueraient la fonctionnalité de leur existence et bien le maintien de toute la biodiversité.
Oui, mais à côté de cet intérêt écologique, elles peuvent aussi s'avérer dangereuses. Parce qu'elles transportent des maladies très graves et sont des réservoirs de virus ou de parasites.
En effet, tous les animaux ont des maladies ou peuvent les véhiculer. Donc comme de nombreux petits mammifères, certaines espèces peuvent être le vecteur ou le réservoir des zoonoses. On sait par exemple que de nombreuses espèces de chiroptères peuvent transporter deux formes de lissavirus, comme la rage. Il n'existe que deux espèces en France qui sont porteuses de la rage, mais la rage se transmet par des morsures. Et les chauves-souris, quand elles sont malades, elles sont souvent beaucoup trop apathiques pour venir mordre un autre animal. C'est un peu comme la rage du chat, le chat il s'endort. C'est assez différent de la rage canine, parce qu'un chien enragé, lui, va mordre, alors qu'une chauve-souris, non. Donc il faut donc insister, la transmission de la rage à l'humain reste quasi impossible, parce qu'il faudrait tenir une chauve-souris dans sa main, il faudrait qu'elle soit assez agressive pour mordre, enfin c'est donc un risque qui concerne que des naturalistes, et il y a très peu de chances qu'une chauve-souris vienne frapper à votre porte pour venir vous donner la rage. En France, elles sont toutes protégées, et il est interdit de manipuler les chauves-souris.
On peut aussi être contaminé de façon plus indirecte.
Par le guano, oui, le guano des chauves-souris, c'est-à-dire le dépôt de leur excrément. Alors, ce guano constitue un excellent engrais naturel et très biologique. Il est très prisé parce qu'il offre de beaucoup de bonnes performances agricoles. En Europe, il ne présente pas de risque de transmission de maladies. Mais le guano dans les régions tropicales peut être infesté par un champignon, l'histoplasma. Et cet histoplasma peut donner alors des symptômes respiratoires assez graves chez l'humain.
Après, on a parlé du rôle des chauves-souris dans l'épidémie du coronavirus.
Oui, les chauves-souris transportent près de 3200 coronavirus. Alors les coronavirus sont des virus ARN et 8,6% des chauves-souris en sont porteuses, y compris les chauves-souris d'Europe. Mais la plupart de ces coronavirus qu'elles transportent sont absolument sans aucun danger pour l'homme.
Pourtant, depuis la mythologie des vampires, les chiroptères donnent l'impression d'être toujours du côté des méchants. L'épidémie actuelle de coronavirus est directement attribuée aux chauves-souris.
C'est en effet leur côté sombre. Alors, il y a des indices qui semblent montrer que les chiroptères d'Asie et des rhinolophes seraient impliqués dans la propagation du NCOVD ou du COVID-19, comme on dit maintenant, qui sont responsables de l'épidémie de coronavirus qui est née en 2003 en Chine et qui est revenu de nos jours là, en 2019 en Chine également. Mais c'est pas la première fois que les chauves-souris sont soupçonnées. Le virus Ebola en 76 au Congo, le SRAS en 2003 en Chine, donc je l'ai dit, le MERS-CoV au Moyen-Orient en 2012. Tous ces animaux transmettent la maladie aux humains, c'est d'abord parce qu'on exploite la faune. On mange des chauves-souris comme plat spécial dans de nombreux pays à travers le monde. En Asie, c'est presque un plat ordinaire. Et certains guides mentionnent des restaurants qui s'en servent pour en faire manger. Alors moi, je doute franchement de l'intérêt culinaire des chauves-souris, d'autant qu'elles sont toutes petites, qu'elles ont un système glandulaire qui est proche des musaraignes, alors que même les chats évitent de manger les musaraignes tellement c'est pas bon. Donc c'est peu dire.
C'est peu dire.
Il existe beaucoup d'animaux exotiques qui sont illégalement consommés dans l'Asie, en Asie du Sud-Est notamment, la civette, le pangolin, et puis sur les marchés de brousse africains, on a aussi des singes, ou encore en Amérique du Sud, on voit aussi des singes.
Ouais, malheureusement, c'est l'exploitation. Mais la contamination est-elle prouvée?
Non, tout ça reste des rumeurs, parce qu'on n'a encore observé aucun cas de transmission directe. Bon, l'hypothèse d'une zoonose, c'est-à-dire d'une maladie transmise par des animaux, reste privilégiée parce que ce sont des pathogènes qui sont souvent en contact avec l'espèce humaine grâce à ces transports de viande, et ces pathogènes peuvent muter très vite. En fait, les chercheurs chinois ont publié une analyse génétique du coronavirus de Wuhan, le fameux Covid-19, et il est très proche du HKU-9-1 du SRAS et de d'autres coronavirus assez semblables, qui eux-mêmes sont très proches des coronavirus présents chez les chauves-souris. Mais il est aussi possible qu'il y ait des hôtes intermédiaires.
Oui, dans les cas du SRAS, l'hôte intermédiaire était la civette vendue sur les marchés asiatiques, d'autant plus que sa viande est très prisée, malheureusement, en Asie.
Eh oui, dans le cas du SRAS, c'était la civette, ce petit mammifère tout à fait magnifique et tué d'une manière absolument invraisemblable en Chine. Mais avec le coronavirus, c'est encore pire, parce qu'une autre étude qui est parue dans le journal Virologie accuse un serpent. Et un serpent assez rare en Chine. Enfin, dernièrement, il y a d'autres chercheurs qui ont incriminé le pangolin. Alors, le pangolin, c'est aussi une espèce terriblement en danger d'extinction parce qu'elle ravitaille la médecine chinoise et beaucoup de consommateurs. On prend ça, évidemment, pour pouvoir avoir des succès sexuels plus grands, soi-disant. Évidemment,
aberrant.
Ça n'a absolument aucun sens, mais c'est utilisé. À chaque fois, il faut rappeler que c'est justement parce qu'on exploite la faune sauvage que ces maladies sont transmises. L'animal, il y est pour rien, il ne lui demande pas à figurer sur la table des repas exotiques pour touristes ou autres autochtones. En fait, on connaît pas bien l'intermédiaire pour le COV, même s'il y a des rumeurs qui courent là-dessus. Mais en fait, c'est probablement quand même un animal qu'on va retrouver probablement très fréquemment vendu sur les marchés de Wuhan. C'est une bonne raison sanitaire pour interdire le commerce de tous ces animaux sauvages.
Mais il faut aussi rappeler que les chauves-souris sont absolument indispensables à nos écosystèmes et même nécessaires à notre propre survie. Et elles sont toutes protégées par la loi.
Oui, s'il y en a. On n'a ni le droit de les tuer, ni de détruire leur habitat, et tout sans risquer les fureurs de la loi de protection de la nature. La plupart de nos produits alimentaires viennent de plantes, qui dépendent de la pollinisation des chauves-souris. Citons les bananes, le plantain, les fruits à pain, les pêches, les mangues, les dattes, les figues, les noix de cajou. Ce sont donc des milliards de dollars chaque année que les chauves-souris produisent, comme le disent les marchands. Les chauves-souris, en particulier les chiroptères de l'ancien monde, africains et Asie, sont indispensables à l'écologie locale. Elle participe à la fois de la pollinisation des fleurs, de la dispersion des graines. Alors la langue des roussettes, par exemple, a une forme très allongée, et ça leur permet d'atteindre le nectar, ce qui contribue à la pollinisation croisée des plantes.
En répandant le pollen, les chauves-souris contribuent à la fertilisation des arbres.
Oui, et elles savent aussi distribuer les graines dans le sol pour régénérer les forêts. Cette dispersion des graines par des animaux est ce qu'on appelle la zoocorie. Une étude, par exemple, qui a été menée en 2012 sur le régime alimentaire de la chauve-souris Eidolon dupréanum, une espèce endémique de Madagascar, a révélé que 12 graines, une pulpe de fruits et 23 de grains de pollen vont favoriser plus d'une trentaine de plantes à fruits pulpeux et puis aussi des eucalyptus.
C'est quand même étonnant, ça.
Oui, en fait, on voit maintenant que l'univers sombre des chauves-souris nous offre des fleurs. Mmh. Devant elles, il y a un festin de fleurs, plus exactement, elles mangent le nectar. La zoocorie des chauves-souris permet de faire franchir de très grandes distances aux graines, et ça donc, ça favorise la diversification du patrimoine génétique et leur dissémination.
Ce sont surtout les grosses espèces de roussettes tropicales qui conduisent cette pollinisation.
Oui et non, parce que ce soit des renards volants qui vont polliniser les baobabs ou les murciélagos d'Amérique du Sud, beaucoup d'espèces sur les 1400 espèces présentes vont transporter du pollen de fleur en fleur. Par exemple, les murciélagos sont des petites butineuses chauves-souris d'environ 15 grammes. Elles sont sans queue, on les appelle Anura caudifère ou Anura geoffroyée. Elles vivent en tant que butineuses, sillonnent la forêt tropicale des Amériques. Leur périple forestier les amène près des fleurs. Alors, elles sont préoccupées par le nectar floral d'environ une dizaine d'espèces de dicotylédones, et nos petits chiroptères sans bruit vont enfouir leur tête au milieu du pollen et vont pratiquer un drôle de vol sur place, un peu à la manière des oiseaux-mouches, des colibris. Mais les chauves-souris paraissent d'autant plus énergétiques qu'elles vont polliniser au moins 10 végétaux distincts. Les murciélagos font coïncider à la naissance de leurs petits, au début de la saison sèche, et l'allaitement est synchronisé avec la floraison de ces dicotylédones. Alors le pollen transporté de fleur en fleur va féconder des plantes, notamment les burmesteria, qui dépendent entièrement de ces minuscules chauves-souris pour fructifier. La survie de plus de 75% des plantes cultivées du monde, que ce soit pour se nourrir ou pour l'obtention de produits pharmaceutiques, de toutes ces plantes qui sont cultivées pour l'homme, vont dépendre de la pollinisation effectuée par les chauves-souris.
Et les chauves-souris participent ainsi de tout le futur des forêts et des plantes. Elles manqueraient drôlement au monde si elles n'étaient plus là.
Alors, elles ne sont pas les seules, en effet. Mais il y a un pacte immémorial entre les plantes à fleurs, les insectes et les chauves-souris, et quelques espèces d'oiseaux, etc. En Afrique, il existe un véritable mutualisme entre, par exemple, l'arbre à saucisses et les chauves-souris. Les grosses fleurs de l'arbre à saucisses, à une odeur assez nauséabonde, s'épanouissent que la nuit et pendent sur le chemin des pollinisateurs. Cette activité des chauves-souris va donc profiter à des milliers d'espèces plus ou moins dépendantes de l'arbre à saucisses. L'arbre à saucisses, c'est vraiment tout un écosystème. C'est vraiment tout à fait étonnant c'est de voir étonnant. Toutes les espèces qui sont associées avec cet arbre. Comme les chiroptères sont nocturnes, la manière dont les fleurs les attirent n'est pas totalement établie. On ne sait pas trop comment ça se passe. On sait que certaines fleurs dégagent des odeurs très attractives, mais les scientifiques ont aussi mis en évidence le rôle des couleurs et des UV dans l'attractivité des fleurs. En tout cas, c'est grâce aux chauves-souris que les fleurs dégagent un parfum sensuel et arborent de magnifiques couleurs.
Tout à fait. Quant à nos chauves-souris de France, elles ont un rôle écologique non négligeable sur la distribution et la régulation de nombreux insectes.
Tout à fait. Chaque espèce de chauve-souris fournit un service primordial en limitant les populations d'insectes et des insectes particuliers, mais aussi en les dispersant, ces populations d'insectes. Alors, il existe 34 espèces de chauves-souris en France et chacune a un régime spécial. Les chauves-souris sont donc essentielles pour la survie des écosystèmes et elles sont essentielles ensemble. Mais elles sont aussi indispensables pour nos productions agricoles, car la gestion naturelle de tous ces insectes est à ce jour l'un des moyens les plus efficaces. En se nourrissant d'insectes, de moustiques, etc., les chauves-souris stabilisent et vont disperser les insectes, bien entendu, y compris ceux qui sont nuisibles aux cultures humaines. Une pipistrelle peut manger des milliers de moustiques en une seule nuit.
Et chaque espèce partage une niche écologique particulière, ce qui correspond donc à des milliers et des milliers d'insectes chassés par an.
Oui, par exemple, on prend une petite espèce avec une tête de bulldog, la barbastelle. Elle se nourrit principalement de petits papillons nocturnes, les pyrales et les mites.
Les mites, c'est
si on prend le murin de Daumenton, lui, il chasse au-dessus des étangs des petits moucherons, des mouches et des éphémères. Et tout ça, c'est avec des fréquences sonores de chasse qui sont entre 30 et 85 kHz. La noctule qui vit dans nos parcs et dans nos boisements part souvent au début du crépuscule, beaucoup plus tôt que la plupart des autres chauves-souris européennes. Et au-dessus des zones forestières, les noctules attrapent à plus de 50 km/h des coléoptères, des papillons de nuit et même bien sûr des fourmis ailées.
Et il existe aussi des acrobates de la capture des insectes les plus difficiles.
Oui, tout ça, ça forme un immense écosystème. Une espèce comme l'oreillard roux, par exemple, chasse au-dessus des forêts, souvent de jour, et il est capable de ramasser des insectes sur une feuille d'arbre. De jour, la proie est probablement repérée par la vue, mais aussi grâce à ses grandes oreilles, parce qu'il peut détecter précisément sa proie. C'est pour ça qu'on l'appelle un oreillard. Les fréquences utilisées par cette espèce de chauve-souris pour l'écolocalisation se situent entre 27 et 56 kHz. Cependant, contrairement à la plupart des chauves-souris, les oreillards peuvent chasser juste en entendant le son du déplacement d'un insecte sur une branche. Alors c'est une stratégie de chasse qui a évolué parce que les papillons de nuit ont développé la capacité d'entendre les chauves-souris quand elles font leur colocation. Et donc quand elles entendent une chauve-souris qui arrive, eh bien elles se laissent tomber pour éviter le prédateur. Mais il y a mieux encore. D'après une étude anglaise, les murins de Nattéraire sont attirés par les sons des mouches qui copulent et en viennent à mettre un terme ainsi à la lune de miel des pouches.
Effectivement.
Des mouches. Quant à la grande sérotine, cette grande chauve-souris rousse, on peut l'entendre grignoter la carapace des coléoptères en plein vol les nuits d'été. Par exemple, quand on se promène autour des églises, quand on habite en ville, on peut entendre ce petit crissement typique des sérotines mangeant des coléoptères.
Ailleurs, d'autres chauves-souris peuvent avoir des régimes alimentaires très différents.
Ah oui, on a à peu près tout. Chez les chauves-souris de Panama, par exemple, ce sont les grenouilles qui sont ciblées. Alors, les grenouilles qui chantent. En chassant ces grenouilles, les chauves-souris participent ainsi à la dispersion des pontes des amphibiens. Elles fondent sur les grenouilles en révélant leurs aptitudes cognitives, selon la biologiste Rachel Page. Les noctillons d'Amérique du Sud, elles, sont des chauves-souris pêcheuses. Pendant la saison de pêche, le noctillon se nourrit principalement de poissons, mais aussi de crabes et de scorpions. Alors, elle localise ces animaux par écolocation, avec des vols circulaires lorsqu'elle cherche une proie. Si elle repère un poisson qui va sauter hors de l'eau, qui met juste sa tête hors de l'eau, la chauve-souris descend plus près de la surface de l'eau, et la durée des signaux d'écolocation diminue. Elle sait aussi ratisser la surface en laissant traîner ses pattes, par exemple, pour capturer un poisson.
Et puis, on raconte aussi qu'il y a les vampires, ces grosses chauves-souris qui se nourrissent de sang. Sont-elles finalement redoutables, ces vampires?
Alors, ces vampires savent en tout cas repérer un mammifère endormi avec simplement le son de sa respiration. Le vampire d'Azara est une petite espèce de la famille des Philostomidae, famille d'Amérique du Sud qui compte environ 143 espèces. Mais il n'y a que 3 espèces qui sont hématophages, c'est-à-dire mangeuses de sang. Il existe une espèce, le vampire à pattes velues, qui se nourrit du sang des oiseaux. Et le vampire commun d'Azara et le vampire à ailes blanches, eux, vont s'alimenter plutôt sur des mammifères. Ils pratiquent l'écholocation, repèrent leur habitat, et ils utilisent leur odorat pour repérer leur proie, les chevaux, du bétail. Ces pattes lui permettent d'effectuer une locomotion au sol, dans les étables, dans les écuries. C'est pas vraiment à l'odeur, par contre, qu'ils vont identifier la zone où mordre. Ils possèdent des récepteurs thermosensibles, c'est-à-dire en gros sensibles à la chaleur, qui vont tapisser à l'intérieur de leur nez, et ça leur permet de détecter les vaisseaux sanguins qui sont situés sur sous la peau des bovins. Le vampire d'Azara se nourrit principalement du sang de bétail, en lapant le sang qui s'écoule d'une petite coupure. Alors, il a exécuté cette petite coupure avec ses dents très coupantes. Et puis, il a aussi une salive anticoagulante. Alors, il peut prélever ainsi 2 ou 3 repas. Ça, c'est en gros quelques millilitres de sang par nuit.
Effectivement, c'est pas beaucoup. Alors, ces chauves-souris vampires ont fait couler beaucoup d'encre aussi à propos de leur organisation sociale et leur comportement.
En effet, ils ont une organisation sociale qui est souvent décrite comme polygyne, avec des mâles dominants. Mais en fait, quand on regarde de près, il s'agit beaucoup plus de groupes multimâles, multifemelles. La grande diversité génétique des groupes est d'ailleurs due à de nombreux échanges d'individus entre les groupements, des juvéniles qui sont largement recrutés pour former des alliances avec les groupes. Les mâles copulent toujours avec plusieurs femelles et n'atteignent en général que 46% de paternité, car les femelles aussi changent fréquemment de partenaire. En général, ce sont des mâles qui quittent leur groupe pour aller chercher d'autres partenaires. Les femelles trouvent plutôt des partenaires qui viennent d'arriver au sein du groupement ou chez ces jeunes migrants. Elles aiment bien les petits jeunes, ces femelles-là. Donc ces nouveaux mâles sont très attractifs. On a donc ici un mélange complet entre mâles et femelles, où chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais les femelles sont très bien accueillies quand elles migrent aussi dans un autre groupe, donc elles peuvent même changer de groupe. Et ces petits animaux, on connaît aussi une incroyable capacité d'entraide et de partage du sang. Ça avait été décrit par Wilkinson en 83.
Partage du sang entre vampires, ça doit être assez fascinant.
Alors biologiquement, c'est en effet fascinant. Il faut comprendre que les chauves-souris vampires se nourrissent juste d'un petit peu de sang du bétail, quelques millilitres. Alors, le problème du sang, c'est que c'est un aliment liquide, qui est peu nutritif, ça contient beaucoup beaucoup d'eau. Chaque individu doit en boire toutes les 48 heures minimum, autrement il peut en mourir. Parce que le sang frais, c'est un régime très déséquilibré. 78% d'eau, c'est très pauvre en glucides, c'est riche en protéines, mais c'est très salé. Et ça contient aussi beaucoup de virus et de bactéries quand on s'attaque à des animaux. C'est grâce à son microbiote, c'est-à-dire à des bactéries intestinales, que le vampire réussit à digérer, à tirer assez de nutriments de ce régime sanguinivore.
Parce qu'être un vampire, cela ne nourrit pas si bien que cela, alors.
Ah non, ça nourrit pas bien être un vampire. Si un individu ne trouve pas sa ration dans les 48 heures, il peut mourir de faim. Mais il a une aide inestimable chez les autres vampires. On constate que dans les groupes, les individus qui sont repus peuvent partager leur repas avec d'autres individus qui n'ont pas trouvé à manger. En fait, il régurgite un peu du sang pour que l'affamé puisse manger à sa faim.
Ah, c'est...
Oui, les théories néo-darwinistes auraient voulu que cette stratégie d'entraide soit corrélée à leur parenté. Mais ça ne marche pas. L'association en groupe n'est pas liée à la parenté. L'étude de Carter et Wilkinson en 2013, donc plus de 30 ans après, montre que les vampires alternent fréquemment entre plusieurs arbres et partagent leur perchoir avec des apparentés ou encore avec des non-parents. D'ailleurs, la parenté à l'intérieur des groupes est très faible, donc ça ne marche pas, cette hypothèse néo-darwinienne. Cependant, le partage de nourriture s'explique beaucoup mieux par la fréquence des interactions que par la parenté. Si vous préférez, c'est l'amitié qui joue le rôle principal. Le partage de nourriture est directement lié à l'association, notamment quand les affinités sont supérieures à 60%. Le partage de nourriture est donc fondé sur l'établissement de liens sociaux, et sur des liens sociaux qui vont durer de très longues périodes.
Ils partagent leur nourriture. Ces petits animaux sont donc loin des gènes égoïstes prononcés par Dawkins. Et peuvent réellement échanger, faire du don entre eux-mêmes. C'est extraordinaire chez les animaux.
C'est sans doute beaucoup plus commun qu'on ne le croit, car la lutte pour la vie de Darwin n'est pas si fréquente dans la nature. Chez les chauves-souris vampires, la première étude du partage du sang régurgité avait été menée au Costa Rica entre 1978 et 1983. Et toutes les études après ont démontré ce fait-là. Elles démontrent que le partage des ressources s'effectue au sein des groupes qui ont développé des relations sociales en toute liberté. À l'intérieur de ces groupes, il n'y a ni dominant ni tricheur. Alors ça contredit largement la théorie de Richard Dawkins, qui estime que l'aide offerte aux semblables diminue la valeur sélective de l'individu. Il faut se rappeler que pour Dawkins, ce chercheur anglais, Richard Dawkins, les individus peuvent se comporter de façon altruiste qu'avec des apparentés, parce qu'il faut qu'on partage beaucoup de gènes pour pouvoir commencer à aider à transporter ces gènes, même si on n'est que proche parent. Alors qu'au contraire, chez les chauves-souris vampires, la parenté est faible. Et donc la réciprocité des comportements est beaucoup plus dépendante de leur vie sociale et surtout de leur amitié, c'est-à-dire de leurs affinités. Il s'agit donc d'une stratégie coopérative de partage réciproque et ça partage très bien sur des très longues périodes, contrairement à ce qu'on pouvait penser, hein, puisqu'on trouve dans la coopération des éléments particuliers, un peu comme chez les primates. La vie sauvage est beaucoup plus libertaire que ce que les néo-darwinistes ont dit.
Eh oui, mais les mâles entre eux, peuvent-ils quand même se montrer batailleurs pour les femelles ou même pour obtenir plus de sang de leur proie? Il y a des conflits?
Ah, il y a assez peu de conflits. La vie sociale des vampires est au contraire très tranquille, bien que les mâles puissent montrer évidemment une rivalité sexuelle et puis que de temps en temps il peut y avoir une petite bagarre. Mais si la femelle ne consent pas à s'accoupler, le mâle il va tout simplement voir ailleurs. Les vampires développent également un toilettage mutuel, et ça va renforcer leurs liens sociaux, on appelle ça le grooming, et les chauves-souris qui se toilettent partagent beaucoup plus souvent leur repas de sang que les autres. En fait, pendant le toilettage, une chauve-souris réussit à évaluer si son partenaire ou sa partenaire a vraiment besoin de manger, et alors elle va pratiquer un échange gratuit du sang. C'est pas l'espèce de chauve-souris la plus sociable, mais le vampire d'Azara a mis en place des stratégies de réciprocité et de nombreux comportements coopératifs. En plus, ces animaux ont aussi développé une sexualité assez débridée. Des mâles et des femelles font preuve de tendresse et multiplient souvent les caresses, les cunilingus, les fellations. Parce que chez les chauves-souris, le sexe n'est pas toujours la reproduction.
Une sexualité si effrénée, nous allons détailler tout cela.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie.
une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
C'était La Chauve-souris par Thomas Fersen. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, pour essayer de bousculer notre tête avec science en liberté. Et aujourd'hui, nous parlons de petits animaux qui volent avec leurs mains. Alors Thierry, on a laissé les chauves-souris s'emparer de la nuit. Pourtant, c'est probablement la décision la plus grave de leur vie. Et pour nous, humains, de même. Car tomber amoureux n'est jamais simple, n'est-ce pas Thierry? Alors comment fait-on l'amour dans le noir quand on est une chauve-souris?
Eh bien déjà, on n'allume pas les bougies. Il faut trouver le partenaire que l'on apprécie vraiment. Et pour cela, les chiroptères utilisent quoi? Eh bien le son. Car finalement, les femelles sont toujours très sensibles à la voix.
N'est-ce pas? Comment chez les humains, quand on a une voix grave et rassurant?
Alors au contraire, chez les chauves-souris, c'est pas la voix grave, il vaut mieux avoir une voix aiguë, très aiguë même, comme par exemple chez les rhinolaves de Méhili. Une voix aussi grave affaiblit énormément le succès reproducteur. Ainsi, l'équipe de Sébastien Puchmaille de l'Institut Max Planck d'ornithologie en Allemagne a montré que les femelles du rhinolaves de Méhili préféraient les mâles aux fréquences les plus élevées. C'est une espèce spécialisée dans la capture d'insectes qui vole au ras des pelouses.
Donc le rhinolophe a la voix haute et pointue. Mais si cela plaît aux filles, il n'y a rien à dire.
Ah oui, sauf que le problème, c'est que les fréquences élevées ne portent pas loin, même si l'écholocation est alors très précise. Les hautes fréquences des cris des rhinolophes de Méhili diminuent donc l'efficacité de son écholocalisation et ça réduit ses capacités de chasse aux insectes. Alors pour tester les préférences des femelles, les chercheurs les ont placées dans des enceintes expérimentales où ils ont diffusé plusieurs centaines de cris d'écholocalisation avec deux haut-parleurs. L'un des haut-parleurs émettait systématiquement des cris plus aigus que l'autre. Et les éthologistes ont constaté que plus le haut-parleur émettait des cris aigus, plus souvent les femelles le choisissaient au détriment de l'autre. Alors évidemment, tout ça, ce ne sont que des suggestions, ça ne suggère que le fait que des mâles qui possèdent un cri élevé vont peut-être plus se reproduire, en transmettre plus d'allèles et augmenter leur population. Mais comme ce caractère est défavorable à la chasse, comment est-ce qu'il peut être retenu? Eh bien, uniquement parce qu'il présenterait cet avantage reproducteur. On voit encore ici que le choix des femelles va influencer l'évolution des rhinolophes. Le sexe est donc un passage obligé de l'évolution.
Mais toutes les chauves-souris ne pratiquent pas un tel choix réfléchi de leur partenaire sexuel.
Ah non, en effet, chez la plupart des espèces, il n'existe pas de couple monogame. Donc ça constitue une sorte de fantasme pieux chez les humains, ça. Les copulations chez les chiroptères, ça se fait au hasard des rencontres. Et parfois même, c'est un peu pêle-mêle, si je puis dire. Les mâles et les femelles ne vivent pas dans les mêmes gîtes. Et ça suit une sorte de ségrégation spatio-temporelle des sexes. Mais ils se retrouvent ensuite, généralement en automne, dans des sites intermédiaires. Et là, il n'existe pas vraiment de règles. Chaque liaison suit un peu ses propres attirances. Les mâles vont s'empresser de courtiser les femelles, et puis les femelles vont plus ou moins se laisser faire. Les premiers chercheurs ont découvert que sous nos latitudes, si la copulation avait lieu en septembre, les naissances se déroulaient en juin. Comment est-ce que c'était possible? Plus de 9 mois de gestation, c'est quand même très long pour des animaux qui font que quelques grammes. En fait, il s'agit d'une astuce physiologique, ce qu'on appelle la fécondation retardée. C'est-à-dire que les femelles, après la copulation, vont garder vivant et intact le sperme des mâles à l'intérieur de leur tractus sexuel. L'ovule ne sera pas fécondé, il sera fécondé que beaucoup plus tard au printemps. Ainsi, la femelle peut plus ou moins choisir le partenaire qui va assurer la paternité, enfin, si elle se souvient de celui avec qui elle a gardé du sperme. Cela interdit que les mâles sachent par contre qui est vraiment le père, ils savent pas du tout qui est le père. Donc ça interdit tout patriarcat. Et c'est devant cette énigme que la rivalité est beaucoup plus réduite aussi bien chez les mâles que chez les femelles.
Les chauves-souris paraissent ainsi plutôt douces, tranquilles dans leurs amours. Mais ont-elles une sexualité aussi sage? C'est chez les chauves-souris qu'on a découvert que le changement de partenaire restait assez libre, aussi bien chez la femelle que chez le mâle.
Oui, les mâles et les femelles vaquent à la recherche de partenaires multiples lorsque les deux sexes se rencontrent en automne. Alors, parfois, ils sont beaucoup plus fidèles qu'on croit, mais souvent, c'est plutôt une fidélité à leur site. On a cherché à savoir un peu plus quand même sur toutes ces mœurs très libertines. Alors des populations de pipistrelles, par exemple, ont été étudiées en Suède et à Bayreuth, en Allemagne, au début d'avril à début octobre. L'accouplement des chauves-souris se présente comme ce qu'on appelle une polygynie de ressources. C'est-à-dire qu'ils ne défendent pas les ressources importantes pour les femelles, mais qu'ils placent leur territoire de cours à proximité de ces ressources. En gros, on va là où les femelles vont aller. Et les mâles vont annoncer leur présence par des vols chantés, avec des chants caractéristiques, et puis ils patrouillent, évidemment, sur des secteurs de quelques centaines de mètres, pour essayer d'avoir le plus de chances possible de rencontrer des femelles et de les attirer. Les femelles vont alors visiter le perchoir des mâles si le mâle est un peu, se leur semble un peu intéressant. Hein, c'est du genre, je t'invite ce soir à passer chez moi. Chaque mâle va copuler avec une femelle, mais il va copuler aussi avec plusieurs femelles. Il va recommencer. Le chant de cour est donc un élément séduisant pour les femelles, mais sans qu'on puisse savoir comment ça a un impact sur la reproduction, puisque finalement les femelles vont à peu près copuler avec tous les mâles qui chantent, et elles changent de mâle régulièrement. On sait que les chauves-souris sont sur la même longueur d'onde quand elles se réunissent ou quand elles s'épouillent. Elles se synchronisent progressivement, elles synchronisent leur écolocation, elles partagent ainsi une sorte de voix commune. Donc oui, toutes les chauves-souris sont sur la même longueur d'onde et elles sont libertines.
Bon, les mâles tentent de séduire toutes les femelles possibles, mais en cours, les femelles peuvent apparaître comme pratiquant des amours libertaires, alors.
Ben, c'est que les femelles ne se contentent pas de visiter les cavités que les mâles occupent. Les recherches menées par exemple par Pern et Kers, c'était publié en 2005 dans Current Biology, ont révélé que les femelles apparentées ou familières, hein, c'est-à-dire celles qui se connaissent et qui ont des amitiés, ben, se partagent aussi des mâles entre elles.
Ah.
Oui, par exemple, quand un mâle vient pour une femelle, ben, l'autre se dit pourquoi pas. On pensait que les femelles font un choix crucial en sélectionnant leur partenaire en vue de la reproduction, parce qu'elles vont être seules à élever leurs petits. Mais chez les chauves-souris, y compris chez les grands rhinolophes, les femelles sont très fidèles à leur premier amour. Donc elles peuvent revenir copuler avec lui plusieurs fois, enfin avec leurs premiers amours. Et elles peuvent même copuler plusieurs années de suite. Or ces données ont été obtenues par un suivi génétique des portées. Mais voilà, les femelles donc, vont partager plusieurs compagnons à la fois, avec leurs propres sœurs, avec leur mère, et souvent avec leurs propres amis, et parfois même avec leur grand-mère, hein. C'est pour te dire qu'elles sont...
Voilà.
En même temps, au milieu de tous ces échanges sexuels, elles ne s'accouplent pas avec leur propre père. Donc elles choisissent tous les autres, sauf lui, ce qui permet d'éviter la consanguinité, bien qu'il s'agisse en fait de polygynie, polyandrie interfamiliale.
Eh bien Thierry, on dirait que les chauves-souris ne s'embêtent pas avec la jalousie.
En effet, il y a quelques rivalités, mais ces animaux pratiquent quand même une grande forme d'amour libre, et cette rivalité ne dure jamais très longtemps. Sauf que cette stratégie d'accouplement a pu conduire tout de même à une parenté assez grande au sein des groupes. À force de s'apparenter avec des individus qu'on connaît, évidemment, ça peut augmenter la consanguinité. Alors les néo-darwinistes ont tout de suite espéré que la coopération chez les chauves-souris serait donc expliquée par un grand degré de parenté entre elles. Ça suivait la thèse dite inclusive, thèse de la parentèle, qui suppose qu'on aide davantage son plus proche parent qu'un autre individu parce qu'on a plus de gènes en commun. Comme les femelles s'accouplent avec les mêmes mâles quasiment tous les ans, il existe en effet une grande parenté dans la descendance. Mais comme les parents de la lignée maternelle, y compris les mères et les filles, partagent des partenaires, eh bien il n'y a pas du tout d'augmentation concomitante de la consanguinité. Les choix de multiplier les partenaires chez les femelles, ça influence donc l'évolution sociale. Alors, d'autres auteurs trouvent même que ce sont plutôt des lignées patrilinéaires.
C'est-à-dire que la descendance serait affectée par des mâles polygynes à la manière des harems.
Oui, sauf que le harem est utilisé à tort et à travers, alors qu'il n'y a aucune sorte de combat qui n'engage une quelconque exclusivité de toutes les femelles pour un seul mâle. Ce vocabulaire idéologique reste très présent en science. Les femelles sont en œstrusque pendant quelques semaines, et l'accouplement est toujours précédé d'une parade nuptiale de mâles qui crient en volant. Alors souvent, on prend le premier mâle qui arrive, et donc on va considérer que c'est celui-là le patron du harem. Mais en fait, les mâles vont tous arriver vers d'autres femelles, et les femelles chantent avec des appels à basse fréquence et effectuent des parades visuelles. Par exemple, chez Chacopteryx bilenaeta, une chauve-souris tropicale, Vogt et Hall, en 2008, on trouvait que 40% des mâles de la colonie n'engendraient aucune descendance, alors que les autres mâles peuvent avoir jusqu'à 6 petits par an. Mais 6 petits avec 6 femelles.
Ouais.
Dans le même temps, ils ont donc mis en évidence d'une manière contradictoire que certaines femelles liées aux mâles reproducteurs vont plus souvent s'accoupler avec d'autres mâles.
C'est en effet un effet paradoxal, même si j'aime bien l'idée de changer un peu de bonhomme. Mais alors... est-ce que chez les chauves-souris, on peut parler de dominant et dominé?
Alors on en parle, on en décrit même parfois, sauf que ce critère reste très très flou. C'est très très flou, c'est un critère qui fonde une idée qui est elle-même très vague, et souvent c'est incongru. En fait, le concept de dominance est assez nul en écologie parce qu'il veut dire son propre contraire. Généralement, on affirme qu'un mâle est dominant parce que c'est un concept sexué, c'est les mâles qui sont dominants. Ensuite, on décrit ce dominant comme gagnant en bataille territoriale. Mais après, on certifie que c'est parce qu'il est dominant qu'il est reproducteur. alors que les autres individus reproducteurs sont qualifiés aussi de dominants. Enfin, c'est une sorte de tour de passe-passe, d'autant plus que chez de nombreuses espèces, celui qui sort vainqueur d'une rivalité, c'est pas toujours celui qui va engendrer la descendance. Parfois, chez les marmottes, par exemple, il va même rien engendrer du tout dans l'année. De toute façon, ce résultat n'est jamais chiffré. Un exemple encore, les travaux tirés sur du rhinolof de Méhélie.
Oui Thierry, raconte-nous cet épisode très spécial.
Alors voilà. Chez les chauves-souris, comme chez la plupart des animaux, en vieillissant, on a une voix plus grave. Et cette voix vont qualifier les individus les meilleurs, ce qu'on nomme les dominants. Chez le rhinolof de Méhélie, c'est l'inverse. Plus la voix est grave, moins on a un succès reproductif. Car les femelles se montrent très sélectives pour le choix de leur partenaire sexuel. En fait, c'est un travail qui avait été publié dans les PLOS par Puchma et ses collègues en 2014. Elles préfèrent les mâles aux cris, dont les fréquences sont très élevées. Mais les cris des colocations sont indispensables à la survie, et les cris trop aigus affaiblissent l'aptitude à détecter des proies. En outre, plus les cris sont aigus, plus ils sont atténués par l'air, et donc moins ils portent loin. Donc pour séduire une femelle, c'est pas si simple. L'analyse génétique au sein de la population de chauves-souris va donc établir des relations de parenté, et là, ça a permis de conclure que les mâles avaient d'autant plus de succès reproductif que leurs cris étaient aigus. Les femelles sacrifient donc leur capacité de chasser et de se localiser au seul profit de leur activité reproductrice. De plus, ce problème se complique encore, car plus un mâle émet un cri aigu, plus son degré de parenté avec les autres membres de la colonie est fort. Ça démontre que les femelles doivent de temps en temps copuler avec un autre mâle pour éviter un trop grand taux de consanguinité.
Mais chez les chauves-souris, il n'y a pas que la reproduction qui compte. Il semble bien que les chauves-souris soient capables d'une sexualité assez débridée.
Oui, car non seulement les chauves-souris ont une sexualité relativement libertine, mais c'est avec les observations de femelles d'une espèce de roussette, les Cynopterus, que les scientifiques ont pu apprendre le goût très prononcé pour le sexe oral. Du coup, cette vidéo est devenue quasiment virale, c'est l'une des pornographies les plus commentées. On y voit en effet des femelles de Cynopterus qui prodiguent des fellations à des mâles.
Ah oui.
Les deux tiers des femelles, 14 sur 20, ont pratiqué des fellations sur les mâles, qui eux-mêmes sont très intéressés. Il n'y a donc que 6 femelles sur 20 qui sont restées sages.
On peut donc dire, Thierry, que dans le noir, les chauves-souris en font autant que les célèbres bonobos, finalement. Mais est-ce que les scientifiques ont proposé une interprétation pour cela ?
Oh oui, il y a une perspective néo-darwiniste. On a supposé que cette fellation permettrait de supprimer le mauvais sperme des mâles, ou encore d'augmenter les copulations reproductrices. Des chercheurs ont même présumé que la fellation préviendrait des maladies sexuellement transmissibles chez les mâles grâce à la salive qui agit comme un antimycosique et qui détient aussi des propriétés antivirales. Alors, c'est vrai que la fellation, ça peut aider à nettoyer un pénis sale, mais enfin, en toute rigueur, je ne pense pas sincèrement que, même pour les bonobos, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin la fonction de la fellation. Ça donne du plaisir et c'est déjà un problème assez simple. Car ce plaisir, ça augmente l'intérêt de faire du sexe, bien sûr, et donc ça a une fonction avantageuse. Car les individus qui s'exercent à des activités sexuelles renforcent leur liaison, renforcent leur désir sur des plus longs termes. Enfin, cet exercice consolide, évidemment, les liens sociaux chez une espèce dont l'organisation sociale est un gage de survie. Et puis n'oublions pas qu'elles font ça de nuit.
La sexualité n'est donc pas qu'une fonction reproductrice, ça ne sert pas qu'à faire des petits.
Et oui, bien entendu, la sexualité n'est pas une solution à la reproduction, comme je l'ai publié dans BioEssai en 2011. Les différentes pratiques sexuelles animales sont aussi une recherche de volupté, car ce plaisir sexuel renforce les liens entre les partenaires et ça favorise la tendresse, l'empathie, les relations à long terme. Bien que de nombreux scientifiques voient le sexe animal en termes de rivalité et de concurrence, il faut bien admettre que le sexe possède aussi une fonction sociale, ça apaise les relations entre les individus. Parce que pour s'aimer, il faut un petit peu s'apprivoiser quand même.
Eh oui, tout à fait. Les fellations, alors, ne sont pas que des préliminaires.
Ça peut s'avérer aussi des préliminaires, les fellations chez les chauves-souris. Mais c'est vrai que le plus souvent, les femelles sucent les mâles avec qui elles ont surtout eu des relations génitales. C'est pendant la copulation qui s'effectue la tête en bas, que la femelle se penche pour lécher le pénis du mâle, qui pénètre son vagin. Il faut aussi constater que la plupart des espèces possèdent un pénis apparent assez gros. Alors je dis apparent parce que c'est la petite taille des testicules qui, en comparaison, donne cette impression d'un pénis grand. Il est probable que, comme d'autres animaux volants, les oiseaux par exemple, les chauves-souris n'ont pas intérêt à avoir un sexe trop visible et trop lourd. On parle de l'hypothèse du tissu onéreux qui a été développé par Leslie Alello et Peter Wheeler en 1995. C'est une théorie de coévolution des organes entre eux. En fait, ces organes font l'hypothèse que pour investir dans le développement d'un gros cerveau, le corps biologique doit disposer d'autres organes moins consommateurs d'énergie. Donc je sais pas, chez lui c'est peut-être le pénis. Chez la plupart du temps, chez l'humain, ça serait plutôt l'estomac qui serait diminué au profit du cerveau. Chez les chauves-souris, les organes sexuels, en tout cas, ce serait réduit au profit d'un cerveau très volumineux.
Et du côté des mâles, ils pratiquent aussi le sexe oral au profit des femelles ?
Le sexe oral n'est pas connu chez les mammifères. Ah. Mais voilà que chez les renards volants, donc les renards volants géants, c'est les Pteropus giganteus, les mâles, eux, sont très intéressés par le cunnilingus. En étudiant une colonie de 420 de ces roussettes, les scientifiques ont observé comment les mâles s'approchaient. Alors au début, les mâles toilettent leur propre pénis dans leur coin, parce qu'ils peuvent l'atteindre assez facilement pour qu'ils se sucent tout seuls. Puis se faufilent au-dessus d'une femelle, choisie un peu par hasard. Si on voit qu'elle n'est pas trop d'accord, ils vont aller voir ailleurs. Si elle est un petit peu intéressée, ils vont rester. Ils vont s'approcher de ces femelles en général. Alors les femelles vont quand même leur dire « Bah recule-toi, qu'est-ce que tu viens faire près de moi ?» Et le mâle de la chauve-souris, là, il se fait beaucoup plus tendre. Il se met gentiment à la toucher, à l'approcher, puis il lui lèche le vagin pendant environ 50 secondes. C'est un cunnilingus, et dans ce cas-là, 60% des cas, il y a un accouplement qui va durer de 5 à 20 secondes. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'aussitôt après l'accouplement, le mâle ne laisse pas Madame Renard Volant comme ça. Il va recommencer à lui prodiguer un second cunnilingus, qui lui va durer jusqu'à 3 minutes.
Yeah.
Alors les auteurs notent que la durée du cunnilingus pré- et post-copulation sont négativement corrélées.
On a souvent raconté que les mâles pratiquaient le cunnilingus pour se débarrasser du sperme d'un concurrent qui l'aurait précédé. Qu'en est-il ici ?
Alors ça, c'est encore une optique de rivalité néo-darwiniste que les biologistes interprètent dans la sexualité des animaux. En gros, effectivement, les mâles pratiqueraient le cunnilingus pour enlever le sperme d'un autre mâle. Mais réfléchissons. Si le cunnilingus pouvait servir de moyen pour enlever le sperme d'un partenaire précédent, cela serait vraiment un problème. Car on ne comprend pas pourquoi la chauve-souris s'engagerait dans un sexe buccal après s'être accouplée elle-même. C'est-à-dire qu'elle enlèverait son propre sperme. Bon, ce cunnilingus serait impropre. Puisque du coup, en enlevant son propre sperme, il interdirait la reproduction. Et puis, la langue du mâle reste sur la vulve de la femelle et pénètre pas le vagin, comme dans un cunnilingus normal. C'est pas ces zones-là qu'on touche. Là encore, la meilleure interprétation reste que le sexe va surtout renforcer les liaisons entre les partenaires. Et ça, c'est chez une espèce qui a une tendance à changer de partenaire. Donc c'est important de lui montrer qu'on l'aime bien, qu'on va rester ensemble. Puis en outre, il y a un autre facteur, c'est le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel qui s'avère quand même un excellent stimulant pour s'essayer ensuite à la reproduction.
Toutes les espèces vivent en colonies où elles se groupent ensemble apparemment sans trop de conflits ni de concurrence.
Oui, plus on étudie les chiroptères, plus on est surpris de leur organisation qui est très communautaire. Les rivalités amoureuses se règlent rapidement par le changement de partenaire car les chauves-souris renouvellent leur sexualité avec plusieurs partenaires différents. Donc ça apaise le groupe. On a vu également que cette sexualité exprimait une recherche de plaisir, et ça renforce encore les relations. Mais leur organisation sociale est aussi très collective. Pas d'hiérarchie, pas de dominance. Au contraire des batailles que citent complaisamment les scientifiques de la faune sauvage, on est obligé ici de constater que les chauves-souris ont une vie paisible entre elles. La vie sociale suit un modèle écologique dit de fusion-fission. On retrouve ça chez beaucoup de singes d'ailleurs. Ce sont des individus qui se joignent librement au groupe ou se séparent librement, qu'ils soient mâles ou femelles. Par exemple, dans le cas du murin de Bechstein, les couples et les petits groupes se forment, se disjoignent, selon leur affinité propre. Pas de guerre et très peu de conflits.
Parfait, un peu comme les bonobos. Mais ici, cela concerne des milliers d'espèces de chauves-souris ?
Tout ça, ça a été publié dans des revues comme Béavure, par exemple. On trouve en effet plus de 1400 espèces qui sont connues et on n'a pas trouvé de traces de ces dominances ou de ces harems, etc. L'absence de dominance est même complétée, on l'a vu, par des comportements d'entraide et de coopération. On se rappelle le principe de l'échange du sang chez les vampires. Mais il y a aussi des associations par affinité et ça entraîne un renforcement des liaisons sociales et du partage des aliments. De nombreux comportements ont été décrits, soins des petits, y compris à des petits non apparentés qui ont été très bien étudiés chez par exemple la chauve-souris vespérale. Informations sur les zones d'alimentation, on explique aux autres où est-ce qu'on peut manger, ou sur les grottes, ou sur les perchoirs disponibles. Ça par exemple, ça a été très bien documenté chez le murin de Bechstein. Le plus souvent, ce sont même des exemples d'altruisme réciproque. Par exemple, les pipistrelles avons indiqué aux autres le lieu de nourrissage où il y a le plus d'aliments. Allez, viens, c'est par ici que le restaurant il me fournit. Et donc, tout ça, elles vont pas développer de comportement territorial individuel ni de concurrence. Ça a été étudié par exemple par Wilkinson ou encore par Ricard, Kate et Ricard, etc. C'est paru même dans les proceedings de la Royal Society. Je ne me souviens plus du titre exact.
D'accord. Existe-t-il aussi, finalement, des comportements agressifs, des individus plus violents ?
Alors oui, il existe des comportements agressifs qui sont très rares, mais assez bien documentée. Par exemple, il existe une espèce américaine, la Lophostoma silvicolum, chez qui on a remarqué une fois qu'un mâle avait harcelé une femelle en s'en prenant à son jeune. Ce comportement a même conduit à l'infanticide. Alors, l'infanticide d'un mâle chez des jeunes, c'est pas rare chez les espèces polygynes. Souvent, on considère que c'est une stratégie sexuelle parce que ça permet au mâle d'engager la femelle à être nouvellement sexuellement réceptive. Mais comme ils savent pas qui est le père chez les chauves-souris à cause de la stratégie de garder le sperme vivant dans le vagin, évidemment, ça complique beaucoup le terme. On voit qu'ici, le patriarcat est difficilement solide puisque l'individu ne sait pas qui est son fils et donc pourra jamais le favoriser. Mais il existe aussi des nurseries qui vont associer des communautés de femelles, des groupes qui favorisent la défense des juvéniles, même contre des attaques impromptues d'autres espèces. Le mâle reste souvent des visiteurs qui sont très bien accueillis dans ces communautés de chauves-souris. L'écologie qui nous assène toujours la survie des plus forts, la hiérarchie sociale et la dominance, là, devant les chauves-souris, eh bien, elle est obligée de s'arrêter. De même que pour le territoire, il n'y a pas de propriété privée. Ces notions d'écologie qui sont tirées de l'idéologie des humains, souvent de l'idéologie économique, de l'économie capitaliste, ne peuvent pas expliquer ici la richesse de la vie sociale des chauves-souris. Non, les chauves-souris sauvages se montrent au contraire très libertaires et elles vivent dans des communautés sociales.
C'était le superbe vol du bourdon de Rimsky-Korsakov.
Il fallait le dire, les chauves-souris vivent en véritable communauté libertaire. À l'heure où la biologie et l'écologie comportementale restent encombrées de complexes surannés tirés d'idéologies douteuses, les chiroptères donnent au monde une leçon exemplaire. Pas de jalousie dans leur sexualité libre, mais des partenaires partagés ensemble. Pas de territoire défendu à coups de crocs entre les individus qui se voudraient propriétaires. Pas d'informations dissimulées pour obtenir un meilleur gain. Plus encore, les chauves-souris vampires se révèlent des petits animaux sympathiques où chacun vient en aide aux autres pour quelques gouttes de sang. Ces communautés quasi-libertaires ne connaissent pas de chef, pas de hiérarchie, et chaque petit est presque toujours assuré d'obtenir les soins d'un quelconque membre de la colonie. Loin de cette cupidité annoncée dans la nature, les chauves-souris se lient et se dissocient en fonction de leur simple vouloir, organisant une société dite de fusion-fission, où chacun s'allie temporairement avec un autre. L'histoire évolutive des chauves-souris nous apprend encore quelque chose. Quand bien même les espèces proviendraient de lignées différentes, elles ont progressivement acquis les mêmes méthodes pour vivre. Et en répétant leur cri d'écolocation, elles ont développé un des plus grands cerveaux du monde animal. Voilà. Leur évolution résulte de millions d'années d'interactions écologiques. Et cependant, ces petits animaux volants vivent en communauté libertaire dans la discrétion de la nuit. Il est vrai que le noir leur va si bien.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission Science Libre à GMX, Science Libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Le temps des cerises par Cora Vauquer.
dans les cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreille. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi j'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte, ne pourra jamais. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.